Continue donc notre parcours dans le livre de l'Apocalypse, qui j'espère vous motive à continuer. C'est pas un livre facile, l'Apocalypse, et on n'entend pas spécialement beaucoup de prédications sur ce livre-là. Pourtant, c'est dans la Bible, il est pour le peuple de Dieu, il est pour nous exhorter, pour nous encourager. Et c'est comme ça qu'on peut le voir, qu'on doit le voir. Donc, Pascal a rappelé, la fois dernière, alors, on s'est rappelé que c'est Jésus qui est le seul et digne d'ouvrir les sept sceaux donc du livre de l'Apocalypse. Et la fois dernière, nous avons abordé l'ouverture des six premiers sceaux. Jésus, donc, qui a ouvert les six premiers sceaux, qui correspondent à six jugements qui sont tombés sur la terre. Et nous avons vu que même pendant cette période de jugement, les hommes ont la possibilité, encore, de se tourner vers Dieu. Pendant cette période de jugement, Jésus est celui qui, effectivement, est celui qui offre le pardon à tout homme, et il est aussi celui qui va apporter le jugement par l'ouverture de ces sceaux. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'ouverture du septième sceau, où il est question de sept trompettes. Donc, les chapitres 8 à 9... Et alors les trompettes, il en est question, il va en être question dans ce chapitre-là. Et je vais prier. Seigneur, je te remercie encore de nous avoir laissé ce livre, Seigneur, qui nous ramène, Seigneur, à notre état, que nous sommes bien petits devant toi, Seigneur. C'est toi qui, effectivement, nous a laissé ta parole et nous, même si nous ne comprenons pas tout, nous avons besoin de toi, Seigneur, pour saisir ce livre, avec tout son symbolisme, avec tout ce qui est littéral aussi. Et Seigneur, qu'il agisse dans notre vie, et voilà, pour nous porter davantage à l'adoration en Jésus-Christ. Merci de conduire ces instants. Amen.
Amen.
Les trompettes, donc dans ce septième sceau, il est question de sept trompettes, et il est souvent question il a souvent été question de trompettes dans la Bible, déjà dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu, faisait retentir les trompettes par les sacrificateurs pour convoquer son peuple. Déjà, la trompette servait à rassembler le peuple de Dieu, parce que Dieu voulait parler au peuple entier. Et puis, il est aussi question de trompettes. Pour conquérir, si vous connaissez l'histoire de Jéricho, où effectivement, ce sont des trompettes de guerre et de victoire, où les sacrificateurs sonnaient de la trompette sept fois autour de la ville, et le septième jour, ils ont sonné sept fois de la trompette, ils ont tourné sept fois autour, et effectivement, la trompette était là, et c'est Dieu qui a donné la victoire aux Israélites. Trompette, donc, comme signe de ralliement, aussi comme signe de victoire en temps de guerre. Dans l'Apocalypse, ici, dans ces chapitres, il est question de trompettes, et ces trompettes sont là non seulement pour avertir les hommes déjà des jugements qui vont tomber avant qu'ils n'arrivent. Donc voyons ces trompettes comme un avertissement. Et voyons les mêmes comme des appels ultimes et répétés de Dieu aux hommes afin qu'ils se tournent vers lui. On ne reste pas sourd au son d'une trompette. Quand vous entendez dans un orchestre symphonique le son des trompettes, c'est à faire trembler les vitres. Là, je crois que c'est encore plus fort que ça. Et voyons ces trompettes comme un appel ultime, répété de Dieu, aux hommes, avant les jugements, avant qu'ils ne tombent. Effectivement, il va y avoir des tombes. Mais avant chaque jugement, la trompette va sonner. Alors voyons, et c'est ce que nous allons voir en cela, le livre de l'Apocalypse, pas seulement comme un livre de jugement, c'est comme ça qu'on le voit en premier, mais c'est un livre d'adoration qui va nous pousser à l'adoration. Avant d'aborder la lecture du chapitre, la vérité centrale, parce qu'on va, je vais aborder la lecture partie par partie et commenter partie par partie les chapitres 8 et 9, plutôt que de lire tout d'une seule traite. La vérité centrale qui ressort des chapitres 8 et 9, c'est que Dieu appelle instamment les hommes à se tourner vers lui jusqu'au bout, par ses jugements. Des jugements qui vont aller crescendo. Et voyons cela comme un signe de son amour. Dieu appelle instamment les hommes à se tourner vers lui jusqu'au bout par ses jugements qui vont aller crescendo. Et nous allons voir donc, dans ces chapitres 8 et 9, trois points. Nous verrons que premièrement, nous verrons comment commence ce récit par La prière des saints, la prière c'est quoi? C'est l'appel de l'Église à Dieu. Nous verrons cela premièrement. Deuxièmement, nous verrons que Dieu répond aux appels de ses enfants en appelant lui-même, instamment les hommes, les incroyants, à se tourner vers lui, par quatre premières trompettes qui visent la nature, pas les hommes directement, mais la nature. Et troisièmement, nous allons voir que le jugement va aller crescendo avec les cinquième et sixième trompettes qui, cette fois, visent les hommes directement. Donc, ils ont déjà le chapitre 8, versets 1 à 6, pour commencer. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et les sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Prélude donc aux sept trompettes. Là, il est question de prière, de la prière du peuple, le peuple de Dieu, la prière des saints. Voyons premier point, la prière, un appel de l'Église à Dieu. Donc, avant que les trompettes ne sonnent, le texte commence par « Il y eut au ciel un silence d'environ une demi-heure ». Imaginons la scène, un silence. Le calme avant la tempête qui va suivre. Silence avant le son des trompettes. L'instant est solennel. Et en même temps, ça nous rappelle que le silence, c'est aussi une manière d'adorer Dieu. On peut adorer Dieu par des moments de silence. Bien sûr qu'il y a nos chants. Mais c'est aussi une manière d'adorer Dieu, se mettre en silence devant lui pour l'écouter. Puis, le passage continue par la prière des saints, la prière de tous les saints. La prière de tous les saints. C'est-à-dire de l'Église. Prière des saints qui sont déjà au ciel et aussi de l'Église qui est sur terre à ce moment-là. Et on peut se demander pourquoi les chrétiens vont-ils bien prier? Je sais pas où en est votre vie de prière. Mais pourquoi les chrétiens vont-ils bien prier pendant cette période de grande tribulation? Parce que pendant cette période, il va y avoir beaucoup de souffrance. Et même chez les chrétiens qui vont être sur terre à ce moment-là. Et c'est souvent dans la souffrance, n'est-ce pas, qu'on se tourne vers Dieu et qu'on recherche Dieu. Et on l'a trouvé parfois, dans des moments de détresse, de souffrance. C'est pas le cas pour tout le monde, mais effectivement, c'est souvent dans ces moments-là qu'on se tourne vers Dieu. Alors, est-ce que la souffrance va toucher les chrétiens? Alors, la dernière fois, j'ai dit, et j'ai précisé que la Bible ne tranche pas si l'Église va être enlevée au ciel avant cette période. Pardon, la Bible ne tranche pas. Est-ce que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation? Est-ce que l'Église sera enlevée pendant, au milieu? Est-ce que l'Église sera enlevée après? La Bible ne tranche pas, parce qu'il y a plusieurs positions qui sont tout aussi respectables les unes que les autres. Moi, je penche pour avant, mais je ne vous garantis pas. J'ai une préférence pour avant, j'aimerais que ce soit avant, mais je ne peux pas vous le garantir. Et pourquoi on ne peut pas le garantir? Pour que justement, on veille chaque jour, en attendant le Seigneur comme s'il revenait ici et maintenant. C'est à chaque instant qu'on doit l'attendre. C'est pas de se dire qu'il va revenir là ou là, pour nous inciter à l'attendre. Ici, donc, il est question d'un ange qui jeta l'encensoir des prières des saints, donc de l'Église, sur la terre. Alors cet ange, là encore beaucoup d'interprétations, mais on peut y voir le Seigneur Jésus. Jésus n'est pas un ange créé par Dieu, bien sûr. Mais dans la Bible, souvent, il est question de l'ange de l'Éternel pour parler de l'Éternel lui-même. Par exemple, en livre d'Osée, chapitre 12, verset 4, il est dit, il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange. Il est question de Jacob qui lutta avec Dieu. Il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange. Alors effectivement, Jésus, et pour plusieurs raisons, on peut voir cet ange qui est appelé ange, comme Jésus. Jésus a dit en Luc 12, 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » C'est ce qu'effectivement là, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'Ancien Testament, l'encensoir était utilisé pour enflammer matin et soir le parfum, donc dans le temple, le parfum qui symbolise la prière du les prières du peuple. Ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons cette vérité que Dieu entend nos prières, chacune de nos prières. Toutes vos prières, nos prières en Christ, sont enregistrées au ciel. Toutes vos prières, parce que ce sont vos prières, ce sont ces prières qui sont présentées, qui sont devant le trône. Par qui? Par Jésus. Jésus est notre grand prêtre, il est notre souverain sacrificateur, et Jésus, il est lui-même le parfum, il est question de parfum dans ce passage, il est lui-même le parfum qui accompagne nos prières. Nous lisons en Éphésiens chapitre 5, verset 2, « Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » C'est lui notre parfum. Nos prières d'adoration, aucune d'elles n'est oubliée devant Dieu. Elles sont même recommandées par notre grand prêtre. Elles sont recommandées par Jésus au Père. Elles sont recommandées par le Fils au Père. Et toutes vos prières faites en Christ, toutes sans exception, sont écoutées, acceptées et peuvent produire de grands changements sur la terre. C'est ce qui va se passer quand on va lire la suite. Parce qu'effectivement, c'est en réponse à la prière des saints, à la prière de l'Église, à la réponse à leur prière que les anges vont se préparer à sonner de la trompette, les sept trompettes qui vont précéder chaque jugement divin. Après. Avant que Christ ne vienne établir sur la terre. Alors voyons effectivement appel de l'Église à Dieu. Comment Dieu répond? Eh bien, mon deuxième point, Dieu répond aux appels de ses enfants. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler. Dieu va appeler instamment les incroyants à se tourner vers lui par quatre premières trompettes qui vont viser la nature. Pas les hommes directement, la nature. Lisons, gardez vos livres ouverts, vos bibles ouvertes, et continuons la lecture. Chapitre 8, verset 7, verset suivant. Première trompette donc. Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Il est question ici d'incendie, ça ne vous dit rien. En France, cette année, plus de 62 000 hectares de forêts ont été brûlés, en France. Et 660 000 hectares de forêts ont brûlé en Europe, cette année, rien qu'en 2022. Alors bien sûr, il y a les effets du réchauffement climatique, avec les effets qu'on connaît sur l'air qu'on respire, sur la nourriture qu'on mange, beaucoup d'arbres fruitiers qui ont brûlé, et sans m'étaler sur la faune. Est-ce que là, n'est-ce pas là encore un appel divin pour interpeller l'homme et lui rappeler que la planète ne lui appartient pas et qu'il doit en prendre soin, et aussi, bien sûr, pour se tourner vers Dieu. Les hommes, comme a rappelé Pascal, nous sommes dans une époque où anxiogène avec beaucoup, et on ne peut pas le nier, beaucoup d'événements mondiaux se passent, la pandémie, la guerre en Ukraine. Là, il est question d'incendie. La Bible parle d'incendie. Le tiers de la terre fut brûlé. Et bien sûr que ça nous rappelle que la planète ne nous appartient pas. Ces événements, j'espère, font que les hommes non-croyants se posent la question « Qu'est-ce qu'on fait de cette planète? D'où vient-elle ?» Et font que les hommes se tournent vers Dieu. Deuxième trompette, je continue la lecture, versets 8 et 9. « Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. » Ici, qu'est-ce qui se passe? L'eau de la mer est changée en sang. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? L'eau changée en sang. Moi, ça me rappelle bien sûr la première plaie d'Égypte, où l'eau du Nil a été changée en sang. Et on va voir que, eh bien, il y a des références aux 10 plaies d'Égypte. Et puis là, le commerce international est fortement perturbé, les navires sont détruits. Donc deuxième plaie. Troisième trompette, versets 10 à 11. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, ardente, comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en Absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Qu'est-ce qui se passe? L'eau potable devient amère. Ça veut dire que les conditions de vie sur Terre deviennent de plus en plus difficiles. Quatrième trompette, versets 8 à 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Qu'est-ce qui se passe? On y voit de moins en moins, un tiers de lumière en moins. Et si vous vous rappelez les 10 plaies d'Égypte, à la 9e plaie d'Égypte, eh bien, les ténèbres étaient tombées sur l'Égypte. Alors, en y regardant bien, on fait une pause dans notre lecture, en y regardant bien, ces quatre premières plaies, elles visent principalement quoi? La nature, et pas les hommes directement. Elles visent la nature, c'est-à-dire la terre, avec les incendies, la mer, les fleuves, l'eau devient amère, et le ciel, diminution de la lumière, d'un tiers. Qu'est-ce que ça montre? Que Dieu s'y prend graduellement. Il s'en prend pas aux hommes directement. Il ne détruit pas l'homme rebelle instantanément. Oui, des hommes sont morts. Beaucoup d'hommes sont morts, pas tous. Il ne détruit pas l'homme rebelle instantanément. Et il aurait été juste de le faire, parce qu'il est juste. Il aurait pu le faire parce qu'il est juste. Il ne le détruit pas instantanément. Avant d'être des jugements, voyons ces plaies comme des appels incessants de Dieu envers les hommes pour qu'ils reviennent à lui, même pendant ces jugements. Et c'est frappant, oui, de voir que ces premières trompettes rappellent les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte, vous vous rappelez, elles sont allées en crescendo aussi. Hein. Et là, eh bien, ces premiers jugements ne sont pas les plus durs. Un tiers de la terre, je veux dire seulement, est brûlé. Mais effectivement, ces jugements vont aller en s'accentuant, comme on va le voir. Ils vont aller en s'accentuant au fur et à mesure que les hommes vont s'endurcir. Parce que le texte suivant va nous montrer l'endurcissement des hommes. Parallèle avec les 10 plaies d'Égypte, les plaies sont allées en s'accentuant au fur et à mesure que Pharaon s'endurcissait. Et en effet, eh bien, les jugements sur la nature ne produisent pas un effet de changement parmi les hommes. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le monde doit en attendre de plus grand, de plus grave. Et c'est ce qui va se passer cette fois avec des plaies qui sont démoniaques. Et des plaies qui vont viser cette fois les hommes directement, aux 5e et 6e trompettes. On poursuit donc. Alors avant, j'aborde mon troisième point, donc les 5e et 6e trompettes, le jugement va crescendo en visant cette fois les hommes directement. Mais là encore, Dieu appelle. Non seulement il appelle par une trompette, mais il va appeler par un aigle. Il va prévenir encore à l'avance les hommes pour qu'ils reviennent à lui. Il va appeler les hommes par un aigle, il va leur prévenir que les trois jugements des dernières trompettes vont être terribles. Malheur, malheur, malheur. Trois véritables malheurs vont suivre. Et à chaque malheur, une fois qu'un malheur est passé, Dieu rappelle combien il en reste. Un malheur est passé, il va en rester deux. Le deuxième malheur est passé, il va en rester un. Chapitre 9, 12 et 11, 14. Je continue ma lecture. Chapitre 8, verset 13. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Et à chapitre 9, versets 1 à 6, le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort le fuira loin d'eux. Verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leur visage était comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Donc jusqu'ici la lecture pour le moment. Premier malheur, le 5e ange sonne de la trompette. Une étoile tombe du ciel et ouvrit le puits de l'abîme. De cet abîme sort une grande fumée qui obscurcit l'air et, qu'est-ce qui se passe? Une armée de grandes sauterelles, qu'on n'a jamais vu, hein, d'après cette description, mais la Bible nous le présente comme ça. Une armée de grandes sauterelles surgit qui va semer la dévastation sur leur passage. Qu'est-ce qui se passe? L'humanité est ici soumise à des pouvoirs diaboliques, représentés par ces grandes sauterelles qui sont comme des chevaux et qui ont le pouvoir de piquer comme des scorpions, versets 7 à 10. Elles sont conduites par quelqu'un nommé Abaddon, qui est l'ange de l'abîme, en 9, verset 11. Alors Abaddon, ça veut dire en grec « destructeur ». Et beaucoup l'identifient de façon très plausible, bien sûr, au diable, Satan. Satan, il est comparé à une étoile. Il est appelé l'étoile tombée du ciel. Dans l'Ancien Testament, en Ésaïe, chapitre 14, verset 12, nous lisons, je vous le cite, « Te voilà tombé, Ésaïe 14, verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Oui, ici, il est question de pouvoir démoniaque, de Satan et de ses démons. Alors, on peut se poser légitimement la question, qui est-ce qui contrôle ici? Est-ce que Dieu est encore au contrôle? Bien sûr que oui. Amen. C'est Dieu qui contrôle tout, et il utilise même selon son plan, je précise, le diable et ses démons, à qui il permet un pouvoir limité. Ici, vous avez remarqué, il leur est demandé d'épargner la verdure de la terre, mais de tourmenter pendant 5 mois les incrédules, ceux qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu. Et vous avez remarqué, ceux qui voudront fuir dans la mort, eh bien, ils ne pourront même pas se réfugier dans la mort. Qui vont pourtant désirer, parce qu'ils vont souffrir. Si vous êtes sauvés, pas de crainte. Vous êtes marqués. Vous êtes marqués de quoi? Du sceau de Dieu, cette fois. Et le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu est fidèle pour nous faire tenir bon dans les épreuves. Alors, les sauterelles, est-ce que ça vous rappelle aussi les 10 plaies d'Égypte? Oui, c'était une des 10 plaies d'Égypte aussi, n'est-ce pas? Et ces sauterelles, eh bien, elles sont mentionnées dans l'Ancien Testament, dans le livre de Joël, chapitre 2. Vous pouvez prendre la référence, je ne vais pas tout lire, mais elles sont mentionnées dans le chapitre 2, versets 4 à 10. Dans Joël, chapitre 2, versets 4 à 10, et là, eh bien, on trouve encore un appel incessant de Dieu aux hommes à revenir à lui. Et je vais lire le chapitre 2, fin du verset 1 et le verset 12. Joël, donc, chapitre 2, fin du verset 1. Car le jour de l'Éternel est grand et terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. On voit dans l'Ancien Testament l'appel de Dieu aux hommes à revenir à lui. Et ici, il est question effectivement de ce même instant. Dans Joël, il est question de sauterelles. Et on voit bien que pendant ces jugements, Dieu appelle les hommes à revenir à lui. Alors là, il a envoyé ces sauterelles qui piquent avec des queues de scorpion. C'est clairement dit pour faire souffrir les hommes. Est-ce que Dieu aime faire souffrir l'homme? Non. Dieu nous aime parce qu'il nous a créés et il veut le sauver. Il a voulu nous sauver. Maintenant, quand l'homme demeure sourd, Dieu aime l'homme, il veut le sauver, quitte à le faire souffrir quand il s'est endurci, et que l'appel de la croix n'a pas suffi. Dieu appelle tout homme par la croix, c'est un appel la croix, à se tourner vers lui, la croix du Christ. Quand l'homme est sourd à l'appel de la croix, eh bien Dieu continue d'appeler, quitte à le faire souffrir. Et vous savez, Dieu ne punit pas de gaieté de cœur. Nous lisons dans Lamentations chapitre 3, verset 33, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dieu ne prend pas plaisir à faire souffrir les hommes. Quelqu'un a souffert, comme jamais personne n'a souffert, il s'agit bien sûr de Jésus. Et Jésus a souffert pour qui ? Pour nous, sur la croix, pour nous sauver de nos péchés et pour nous pardonner. Il fallait qu'il passe par la souffrance pour que nous soyons sauvés et pardonnés. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ceux qui ne l'auront pas accepté, eh bien, ils vont souffrir. Ils vont souffrir eux-mêmes à terme, ils vont souffrir parce qu'ils ont refusé le pardon de celui qui a souffert pour eux. Ils ont refusé le pardon de celui qui a souffert pour eux, eh bien, la souffrance sera inévitable. Mais là encore, voyons dans la souffrance un signe de la patience et de la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que là, vous avez remarqué, ça ne va pas jusqu'à la mort. Ça ne va pas jusqu'à la mort. Il ne permettra pas que leur souffrance aille jusqu'à la mort. Et j'y vois là un avertissement pour leur éviter quelque chose de bien pire. L'enfer. Mieux vaut des souffrances temporaires que des souffrances éternelles dans l'enfer. Ézéchiel 18, verset 32 nous dit « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez !» Dans toute la Bible, nous avons ces instants de supplication, ces appels de Dieu à l'homme. L'écrivain C.S. Lewis qui il a dit ceci, hein. Il a dit ceci, je cite, « La souffrance est le mégaphone utilisé par Dieu pour réveiller un monde sourd. » Je le redis, « La souffrance est le mégaphone utilisé par Dieu pour réveiller un monde sourd. » Oui, parfois Dieu peut se servir de la souffrance pour se faire entendre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un enfant de Dieu peut souffrir ? Je crois qu'on est tous passés par des moments de souffrance, n'est-ce pas ? Bien, non, ça ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne souffrira pas. Parce que Christ a souffert, nous sommes appelés à suivre ses traces. Mais la différence, c'est que Christ accompagne, comprend et soutient ses enfants qui souffrent, et parce que lui-même a souffert. Et il ne permettra pas qu'on souffre au-delà de ce qu'on peut supporter. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Je vous cite ce passage dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Cette promesse, merveilleuse promesse. 1 Corinthiens 10, 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir avant que vous puissiez la supporter. » On revient dans notre texte, le verset 12 du chapitre 9. Ça sonne encore comme un avertissement sur ce qui va suivre. Un avertissement et aussi un appel à revenir à Dieu. Verset 12, je reprends un peu, chapitre 9, verset 12, jusqu'au verset 19. Le premier malheur est passé, voici, il y vient encore deux malheurs après cela. Et donc, la sixième trompette à partir du verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel qui est devant Dieu. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les cheveux veaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Pour rien, difficile de faire autrement que de s'imaginer la scène à partir de cette description. Une voix donc qui vient de l'autel, l'autel qui est devant Dieu. L'autel devant Dieu, donc là où sont offertes les prières de l'Église. Cette voix demande à l'ange qui sonne la sixième trompette, de délier les quatre anges. De délier les quatre anges. un ange qui est lié, eh bien, voyons-y des anges déchus, des anges déchus, des anges rebelles, pour qu'ils soient liés. Et là, cette voix donc demande de lier les quatre anges, parce qu'ils étaient, ils sont liés. Leur mission, tuer le tiers des hommes par une gigantesque armée de deux, gigantesque, hein, ça veut dire 200 millions de cavaliers de quoi? De démons destructeurs. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le jugement, il continue à aller crescendo. Autant Dieu n'a pas permis que les rebelles meurent à la cinquième trompette, autant ici, qu'est-ce qui va se passer? Un tiers des hommes sont tués, vont mourir. Et là, on pourrait se dire, mais c'est bon, les hommes vont comprendre là. On pourrait se dire, si après ces événements extraordinaires, les non-croyants vont être convaincus de se repentir. Mais aussi incroyable que ça puisse paraître. Regardons la suite du texte. Quelle va être leur réaction? Verset 20, chapitre 9, verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Fin de citation. Le cœur de l'homme. Jusqu'où? Jusqu'où ça peut aller? Mais on voit que là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des rescapés, ceux qui n'ont pas été tués précédemment, eh bien, ils ont leur cœur aussi endurci que l'or, l'argent, la pierre ou le bois de leurs idoles. Ils ont le cœur aussi endurci que leurs idoles, qui se sont faites eux-mêmes. Et ce sont ces idoles qui les poussent à quoi? Qui les poussent au meurtre, au vol, à la pornographie. Et qui les poussent aussi à se droguer. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Le mot enchantement peut aussi vouloir dire drogue. Vous savez, la drogue, elle est très présente dans la société. Si vous avez suivi l'actualité, il y a des meurtres atroces qui se sont produits. Des meurtres d'enfants. Et on peut se demander, est-ce que les personnes qui ont fait ça étaient dans leur état normal? De telles atrocités sur des enfants. Alors, on ne sait pas s'ils étaient drogués. Mais, sous l'effet de la drogue, l'homme est capable de faire des atrocités. C'est tellement facile de s'en procurer aujourd'hui. Et on peut vraiment prier pour ceux qui luttent avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc le résultat, ces hommes ne se sont pas repentis, ils ont préféré leurs idoles. Eh bien, dans la justice divine, les idoles des hommes qui se sont eux-mêmes créés vont être remplacées par des démons. Adorer une idole, c'est vouloir mettre Dieu de côté, c'est mettre quelqu'un à la place de Dieu. Et quand quelqu'un met Dieu de côté, il ouvre la porte à qui? Aux démons. Et leur souffrance, eh bien, c'est le résultat de leur obstination. Dieu n'a fait que retenir son juste jugement. Il a délié les quatre anges. Il n'a fait que retenir son jugement jusqu'au moment où ces anges déchus ont été lâchés. Dieu ne punit pas de gaieté de cœur. Alors qu'est-ce qu'on constate? Il y a un triste constat ici. C'est que même un châtiment et une souffrance aussi dure n'ont pas suffi à changer le cœur de l'homme. La preuve est faite. Alors, est-ce qu'il reste encore un moyen pour convaincre les hommes? Oui, il en reste un. Il en reste un. Mais ça sera le dernier avant que la septième et dernière trompette ne sonne. Parce qu'après, ça sera trop tard. Ce que nous dit le texte suivant. Alors, cet ultime moyen, il est aussi le plus ancien que Dieu utilise. Encore aujourd'hui. Il s'agit de la prédication de la parole. Alors ça sera pour, c'est pas pour aujourd'hui, ça c'est dans les chapitres 10 à 11. Les chapitres 10 à 11 qui sont en fait une pause où Dieu appelle encore les non-croyants, cette fois pas par une trompette de jugement, mais par la prédication de la parole. Ça c'est dans le chapitre 10 à 11. À suivre donc. Alors, quelle application pour nous, ces chapitres 8 et 9? Vous avez remarqué, j'en reviens au début du chapitre 8, les trompettes du jugement ont commencé à sonner en réponse à la prière des saints de l'Église, à vos prières, à nos prières. Les saints, donc, du début du chapitre 8. Et les chapitres 8 nous informent, et plus que cela, nous avertissent, nous, l'Église, des jugements qui vont s'abattre sur la terre, sur les non-croyants. les non-croyants qui sont en rébellion contre Dieu. Dieu ne prend pas par surprise ici. Alors on ne sait pas le jour où il va revenir, Jésus. Mais on sait ce qui va s'abattre sur les non-croyants. C'est consigné ici dans la part. Et on sait le lot de souffrances qui vont aller avec. Alors, qu'est-ce que ça suscite chez vous, chez nous, l'Église? Qu'est-ce que ça suscite comme réaction? Est-ce que ça suscite une réaction comme « bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à se repentir, se convertir ». Je vous propose plutôt, posons-nous la question, qu'est-ce que ça fait à Dieu d'avoir exercé de tels jugements sur le monde qu'il a créé et qu'il aime et qu'il veut sauver, quand les hommes n'ont pas cru à l'Évangile? Vous connaissez tous Jean 3,16. Si je vous dis « Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle », c'est pas Jean 3,16. Jean 3,16, c'est « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » D'après ce texte, Dieu appelle, adresse un appel, un instant appel aux hommes qui n'ont pas encore cru de se tourner vers lui, parce qu'il les aime. Et croyez bien que vos prières en Christ ont un impact sur le monde, même en Afghanistan, si vous priez pour les chrétiens afghans qui ont bien besoin de nos prières, ou la Corée du Nord, ou d'autres pays où les frères et sœurs sont persécutés. Dieu attend, aime et entend la prière suppliante de nous, ses enfants. Que fait-il en réponse? Il adresse lui-même des appels répétés aux incroyants de se tourner vers lui avant qu'il ne soit trop tard, en réponse à l'appel de son Église. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que Dieu supplie les hommes à se tourner vers lui? Oui. 2 Corinthiens 5, verset 20. Magnifique verset. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Paul, porte-parole de Dieu, l'Église, nous aussi, nous sommes ses porte-parole. Comment est-ce que Dieu supplie les hommes de se tourner vers lui? Par Christ et par nous, l'Église. Nous sommes ses ambassadeurs. Dieu appelle et adresse ses avertissements par sa parole pour qu'on sache que ceux qui lui résistent seront détruits. Et les croyants vont être récompensés, comme il est mentionné au chapitre 11. Dans quel but est-ce que Dieu nous a laissé tout cela? Dans quel but est-ce que ces versets 8 à 9 sont là pour nous? Eh bien, pour que nous prions pour la conversion des rebelles, des non-croyants, dans nos familles, parmi nos proches, pour que nous prions et qu'on annonce l'Évangile. Dans le livre de Daniel, pour terminer, Daniel avait été instruit sur ces derniers temps-là, hein, cette grande tribulation. Et qu'est-ce qu'il a fait après avoir reçu les oracles de Dieu? Il a prié pour son peuple, les Juifs de l'époque. Eh bien, nous, l'Église, nous sommes appelés à prier pour le salut des nations et celui d'Israël, parce que nous savons ce qui va leur tomber dessus, ceux qui n'auront pas cru. Dieu nous a laissé sa parole, les jugements qu'il a consignés et qui nous ont été révélés dans le livre de l'Apocalypse. Alors que ça nous encourage à prier, aussi bien déjà dans sa vie personnelle qu'en couple, en famille, pour ceux qui sont mariés, et bien sûr en église, où il y a des occasions, des réunions de prière, des moments de prière, qui sont aussi des moments bénis. Je vais prier. Seigneur, oui, comment ne pas voir, Seigneur, dans tout ce que tu as prévu dans ta parole, comment ne pas voir, Seigneur, que tu souffres, Seigneur, quand quelqu'un ne veut rien entendre de toi, Seigneur. Et quand nous voyons tous ces jugements que tu as préparés, Seigneur, et qui arriveront sur le monde, incroyant, Seigneur, nous intercédons. Nous intercédons pour que les hommes et les femmes incroyantes se tournent vers toi. Que c'est vrai, nous vivons des temps anxiogènes, des temps de crise mondiale. Que, Seigneur, cela incite les gens à te chercher et guide-les du bon côté, parce que tu sais aussi qu'il y a aussi des voies de trompeuses, mais Seigneur, aide ces gens à se tourner vers toi et à reconnaître la voie du bon berger. Et nous te prions, Seigneur, nous l'Église, que nous soyons, voilà, Seigneur, fidèles dans l'intercession, Seigneur, que tu attends de nous. Et merci parce qu'aucune de nos prières en Jésus-Christ, n'est oublié devant toi. Donne-nous de prier fidèlement, avec foi. Suscite en nous, Seigneur, cet esprit de prière. Et merci, Seigneur, parce que tu entends et tu réponds à nos prières, comme toi tu l'as décidé, quand tu l'as décidé. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen.